Alors l'humanité commence. Adam et Ève ont des enfants. Abel et Caïn et d'autres des filles, des fils. Et Abel prie Dieu avec beaucoup de simplicité et d'amour. Et Caïn, lui, est mauvais, il est jaloux, c'est un homme colère. Donc, lui, il cultive la terre. Lorsqu'il offre à Dieu des gerbes de blé et tout ça, le signe biblique, c'est que la fumée descend le long de la terre. Et tandis que quand Abel offre des petits agneaux de son élevage, la fumée monte. Mais c'est surtout la vérité de leurs intentions. Et Dieu dit à Caïn, mais si tu te convertis, si tu as une intention, plus d'amour dans ton cœur, tu seras plus heureux. Ne sois pas jaloux d'Abel. Caïn résiste à cette invitation de Dieu. La tradition dit qu'il prend une mâchoire d'âne et il casse la tête d'Abel. Et donc Adam et Ève voient le premier mort. Et vous aurez remarqué qu'il n'est pas mort ni de vieillesse ni de maladie. Hein. Donc, il est mort de crime. Donc le premier mort, les premiers rites funéraires, il a été enterré, Abel. Et Dieu dit à Caïn, mais le sang de ton frère monte de la terre jusqu'à moi. Tu es maudit. Et il interdit à ses frères et sœurs de le tuer. Et Caïn s'enfuit. Mais il a bien des sœurs ou des cousines qui viennent le retrouver finalement et il aura une descendance. Et on arrive à un point, au point de vue historicité, les rabbins qui sont en 5780 actuellement grosso modo, donc on le compute biblique strict. Et donc là, les années passent et Adam et Ève vieillissent peu parce qu'ils ont un corps d'une constitution toute particulière. Hein. Mais ça, au moins vous n'aurez pas perdu votre temps, si vous voulez, au point de vue culture générale, Mathusalem meurt à 969 ans, juste avant le déluge. Adam est mort probablement à 920 ans, ou des choses comme ça, 950 ans, je crois qu'on a le nombre de ces années. Et Noé, lui, a environ 350 ans lorsque Dieu lui dit les descendants de Caïn, en fait, le péché est devenu tel, viol, meurtre, sacrifice humain, adoration des démons, alors qu'il y a à peine sur terre, je sais pas, 3000, 5000 personnes. Pourquoi je vous dis ça? 2000 peut-être. C'est simple, les femmes avaient un enfant par an. Quasiment. Vous savez que dans les campagnes, vous aviez des femmes qui avaient jusqu'à 17 enfants, 22 enfants. Vous savez ça? Et donc, imaginez la fécondité d'un corps créé dans toute sa force. Et donc, l'homme, entre le tigre et l'euphrate, s'est multiplié énormément. Énormément, mais pas au bout de 1000 ans seulement, c'était une corruption terrible. Il y a eu un film récemment, il y a un an et demi, qui était imprégné de cabale, qui n'était pas terrible, parce que la mue du serpent du péché originel servait à Noé pour bénir. Ça, c'est de la pure cabale. Hein. C'est de la sorcellerie babylonienne, égyptienne, pompée par certains rabbins, et qui n'est pas du tout agréable. Et même les juifs pieux n'aiment pas beaucoup la cabale, hein, je peux vous assurer. Et donc, dans ce film, vous avez des géants en pierre, des sortes... Alors, pour certains rabbins, vous avez des anges qui ont eu des enfants avec des femmes. Steven Spielberg est de cette secte. Rencontre du troisième type, c'est l'arrivée de ces anges, de ces extraterrestres qui reviennent après avoir fécondé les femmes. C'est le mont Sinaï, hein, là où arrive le, comment dire, le truc. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait comme film là-dessus? E.T. E.T., c'est le retour de ce. Alors là, pour le coup, c'est pas un ange, hein, c'est. Mais pour lui, c'est pour ça qu'il représente dans E.T. la création de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, entre le petit Elliot, je crois, et E.T. Il est obsédé, ce sont des gens qui sont obsédés par ça. Et donc, dans le récit biblique strict, les anges ne peuvent pas être un succube, un cube, et avoir des relations sexuelles et des enfants avec les êtres humains. C'est faux, ils n'ont pas de matière, hein, c'est du pipeau-pipeau, hein. C'est comme, je sais pas, les vampires, je sais pas. Tout ça, c'est faux. Il n'y a pas de vampires. Il y a des possédés, il y a des machins, mais il n'y a pas de vampires. Et donc, l'être humain se développe et est extrêmement violent. Donc Dieu a dit à Noé, je vais faire mourir tout le monde d'un coup. Tu vas préparer un bateau, tu peux prêcher la pénitence. Mais toi, tu entreras avec ceux qui voudront entrer dans ce bateau. Donc, il construit un bateau dans la plaine, hein, avec des troncs, avec du bitume, il est fermé. Alors, d'après la tradition orale, le bateau a dérivé et s'est échoué sur le mont Ararat en Arménie, hein. Mais bon, ça, c'est pas nécessairement biblique. Ce qui est biblique et certain, c'est que un homme a fait un bateau entre le Tigre et l'Euphrate, a proposé à ceux qui voulaient bien entrer d'entrer, et ils n'ont été que 8 à entrer. Noé et sa femme, 3 fils et leur épouse. Ils étaient monogames. Noé était monogame, Cain est très vite devenu polygame, hein. Et d'ailleurs, c'est noté dans la Bible. Et il prit une seconde femme. C'est curieux, hein, la tradition orale que Moïse a mise par écrit dans la Genèse. Cain a eu 2 femmes. Et c'est tellement curieux pour l'époque, ça avait été noté. Et c'est pas positif. Alors qu'ensuite, la polygamie est tolérée, hein, même du temps de Moïse, du temps d'Abraham. Mais on remarque dans l'histoire que c'était le premier homme à avoir pris une deuxième femme. Cain. Et donc, il a terminé l'arche. Ils mettent tous les animaux de la plaine. Alors, vous avez les fondamentalistes supérieurs à moi qui disent que l'eau a monté sur toute la surface de la terre. Donc là, c'est la plaine. Tout le monde meurt. Tous les êtres, tous les hommes, les villages, ou tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, tout le monde meurt noyé. Et Noé seul sort de l'arche. 40 jours plus tard, avec le rameau d'olivier, qui est rapporté par la colombe et qui revient pas à un moment donné. Et il sort de l'arche et il a son fils Sem. Ça vous dit quelque chose, les Sémites? Cam, Cananéen. Ça vous dit quelque chose, les Philistins, la bande de Gaza? Hein? La bande de Gaza, les Palestiniens et les Sémites. Ça fait 3000 ans qu'ils sont en guerre. Donc, c'est impressionnant. Et Japheth, qui on considère comme à l'origine des Européens. Et là, vous avez Noé qui sort de l'arche, qui bénit, Dieu les bénit, il leur dit maintenant, remultipliez-vous, je ne ferai plus de punition générale avant la fin des temps. Et la colère de Dieu, et la colère de l'agneau. Quand les péchés surabonderont sur la terre, quand les gens seront quasiment obligés d'avorter si l'enfant n'est pas en bonne santé, si on sera quasiment obligé d'euthanasier nos parents, lorsque il y aura la débauche, voilà, le bon Dieu arrêtera l'histoire humaine et ça sera l'Apocalypse. Mais là, à ce moment-là, Dieu dit, je ne ferai plus de punition générale. Et l'arc-en-ciel en est le symbole. Donc ceux qui ont des tendances homosexuelles et qui sont assez agressifs dans leur fierté de leur tendance homosexuelle, ont pris comme symbole l'arc-en-ciel pour dire Dieu ne nous punira pas, comme à Sodome et Gomorrhe. C'est biblique, hein, l'arc-en-ciel des LGBT. C'est Dieu ne nous punira pas. Moi, quand je confesse des homosexuels, je leur demande la chasteté, et une des conditions pour leur bonheur. Parce qu'on est, si vous voulez, je peux encore le dire sans aller en prison, hein, la sexualité homosexuelle n'est pas naturelle et pèse sur les personnes. Et quand ils sont libres, même s'ils ont encore des tentations, de la mémoire, tout ça, vous avez des hétérosexuels qui sont fétichistes, vous avez des hétérosexuels qui sont toujours attirés par les filles de 20 ans alors qu'ils sont mariés, 60 ans et 3 enfants. Voilà, c'est, si vous voulez, c'est les tendances sexuelles ne doivent pas résumer notre personne. Et donc, ils sortent de l'arche et Noé fait du jus de raisin, et c'est la première fois que le jus de raisin, se vinifie. Et il en boit, il trouve ça bon, mais il en boit tellement qu'il devient ivre. Donc ça veut dire quand même que depuis Adam et Ève jusqu'à Noé, on ne connaissait pas le vin. Et donc il est ivre, et là vous avez Cam qui revient de la chasse, et qui voit son père ivre, tout nu, titubé, hors de la tente. Et il se moque de lui. Et là vous avez Japhet et Sem qui arrivent, qui prennent le manteau de Noé et qui, à reculons, recouvrent leur père. Et quand Noé reprend ses esprits, il dit « Je ne peux pas te maudire parce que Dieu t'a béni, mais ton fils Canaan sera maudit à ta place. » Ah, c'est des hommes durs, hein. C'est la religion naturelle la plus basique possible, hein. Et donc, et c'est la raison pour laquelle vous avez certains racistes qui invoquent la Bible comme certains prédicateurs d'Afrique du Sud qui estimaient que la supériorité de blanc était liée à la malédiction de Cam qui est l'ancêtre des Africains et des Cananéens. C'est quand même incroyable. Vous voyez comment on peut faire quelque chose de la Bible. Tandis que là, si vous voulez, c'est une réprobation du père par rapport à son fils, simplement. Ça sera plus dur pour lui, puisqu'ils sont fâchés. Les hommes se multiplient à nouveau, et on arrive à quelques milliers de personnes à nouveau là où ils se sont répandus. On est toujours dans le croissant fertile. Et il recommence à faire les adorations des esprits. Ils égorgent et brûlent des bébés aux esprits pour avoir des bonnes récoltes et tout ça. Ils se détournent du dieu d'Adam. Et à un moment donné, ils vont faire une tour énorme du côté de Babylone, en Irak, et dont la base était grande, parce qu'à l'époque, ils ne connaissent pas tout à fait les forces des pierres, des tout autres, et c'est du torchis plutôt. Et ils font une immense tour, la base énorme, l'autre étage plus petit, pour que ça tienne, sinon ça s'écroulait. Et leur intention, c'était d'insulter le dieu d'Adam. Et avant qu'ils aient terminé la tour de Babel, qui veut dire confusion, hein, Babel, Dieu dit, eh bien, puisque les hommes veulent aller jusqu'à moi, et veulent m'affronter, et veulent être supérieurs à moi, alors je vais confondre leur langue. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que la racine, quelle est la langue originelle de l'humanité ? Ça, alors là, mystère et boule de gomme. Certains vont dire, bien sûr, que c'est l'hébreu. Mais Adam et Ève avaient une langue. Cette langue primitive a dû persister. Mais Dieu a créé dans l'esprit humain des langues différentes, avec des racines différentes. Ils se sont tous retrouvés comme ça, alors qu'avant ils formaient qu'un seul peuple, à ne plus se comprendre. Et du coup, ils se sont séparés. C'est impressionnant, hein, le miracle de la tour de Babel, c'est Dieu qui créent des langages différents. Et vous avez donc des ethnies qui se séparent. Et c'est resté dans la tête de l'histoire humaine, hein, cette tour de Babel. Hein. Eh bien, voyez-vous, ils se séparent. Et parmi eux, vous avez Abraham, qui reste du côté de Ur, en Chaldée, les Chaldéens, la Babylonie, et qui, lui, prie le Dieu d'Adam. Et à un moment, Dieu lui apparaît et lui dit, « Toi, tu as gardé la foi, garde-la encore, et je ferai de toi le père d'une multitude. Pars de ton pays. » Alors, à Ur, en Chaldée, on sacrifiait les enfants, on balançait des bébés dans les fondations des maisons pour porter chance, on faisait des sacrifices aux démons, enfin c'était ignoble. Hein. Et lui avait 300 bergers avec lui, c'était un homme riche, c'était un grand berger, Abraham. Il part avec toute sa maison. Il va faire une étape, je ne sais plus où, et ensuite il va à Jérusalem, chez les Jébuséens, à Salem. Ça vous dit quelque chose, Jérusalem? Sur le bord de la Méditerranée. Vous voyez? Ah. Et donc il s'arrête. Et à deux reprises encore, Dieu lui promet que sa descendance gardera la foi et se diffusera sur toute la terre et dans toutes les nations. Vous vous rendez compte, le bonhomme, il est là tout seul. Il vient de Ur en Chaldée. Et il dit à ses enfants, à ses petits-enfants, ma foi se répandra dans le monde entier. C'est quand même curieux. Alors justement, quand je vous parle d'Adam et Ève et je vous dis que ce sont deux personnages historiques et nous avons tous le même sang et que les races humaines sont complètement accidentelles et que c'est, si vous voulez, alors là pour le coup, l'agencement de l'ADN qui se particularise, mais entre noir, entre blanc, entre jaune, vous avez aussi des espèces de nez, des espèces d'oreilles. Vous le saviez, ça? Vous avez des blancs, des noirs qui ont tel nez et pas tel autre. Vous avez des blancs, on pourrait mettre en catégorie les blancs qui ont tel nez ou pas tel nez. C'est amusant. Vous voyez? Mais c'est complètement accidentel. C'est l'ADN qui se mélange. Vous voyez? Concentration dans la peau noire. Les cheveux qui, comment dire, qui sont, comment ça s'appelle les cheveux des Africains? Les cheveux crépus? Les cheveux droits, comme les Asiatiques? Mais c'est complètement hasardeux, là, pour le coup, je vous admets le hasard. Et donc, Abraham est là, et il dit, mais tu m'as promis une descendance, mais ma femme est stérile, j'ai 90 ans, et elle en a 80. C'est fini, là, maintenant. Est-ce que je peux faire comme les païens? Et il va prendre une esclave comme femme. Et les esclaves, les femmes de second rang, accouchaient sur les... Quand c'était possible, hein, mais c'est une coutume. Elles accouchaient sur la femme, la première femme. La première femme est là. Vous voyez? La femme enceinte s'assied sur elle. Et elle enfante comme si la... femme de premier rang enfantait à travers la femme de second rang. Vous vous rendez compte un peu les traditions qu'ils avaient? Qui était un reste de monogamie, puisque c'est la première femme qui est la plus importante. Agar est prise comme esclave et elle enfante un enfant, Ismaël. Mais Dieu lui dit non. C'est lors de ma promesse, c'était avec Sarah, ça sera avec Sarah. Et là, Sarah qui a 80 ans, et là, depuis le déluge, depuis Noé, on meurt à 120 ans. Le compte de l'homme est de 120 ans. Et donc là, vous avez Sarah qui est là et qui rigole. Et Dieu lui dit, eh bien, tu appelleras ton fils rire, joie, rire, Isaac. Et elle enfante un enfant dans sa vieillesse, qui est miraculeux, mais c'est important. Isaac grandit, Agar est jalouse, Sarah est jalouse, Ismaël est jaloux d'Isaac, ils se foutent dessus, et Sarah va dire à Abraham, moi je veux qu'elle parte avec son enfant. L'héritier c'est lui, Elle part avec une outre d'eau dans le désert. Elle est chassée par Abraham. Dur, hein, les mœurs sont dures, hein. Et là, vous avez l'archange Gabriel qui sauve Agar et Ismaël. Et il dit à Agar, ton fils sera l'origine d'un peuple qui sera dur comme un âne solitaire du désert. Il mordra ceux qui l'approcheront. Et ce sont les Sémites du désert, les Saoudiens, les Ismaéliens. Parce que Abraham, lui, il est descendant entre Noé et lui d'Héber, hébreu. Et Héber est descendant de Sem. Ce sont les Sémites. Vous avez actuellement des Juifs Sémites, par excellence, et des musulmans Sémites, par Agar et Ismaël, puisqu'ils sont les descendants d'Abraham, d'Héber et de Sem. Ce sont des Sémites. D'autres sont des Cananéens. Donc vous avez des Palestiniens, ce sont des Cananéens. Et les Saoudiens sont des Sémites. Et les Jordaniens sont Sémites Cananéens. C'est intéressant ce que je vous dis, hein, bibliquement et historiquement, à mon avis aussi. Et Abraham finit par arriver sur la Terre Sainte. Et Dieu lui dit, ben voilà, ton fils, ton premier-né, celui qui est le fils de la promesse, à l'image de toutes les divinités, de tous les esprits qui sont adorés par les hommes dans leur cruauté, tout ça, moi je suis le vrai Dieu. Alors j'ai le droit que tu me le redonnes. Eux, c'est par cruauté et par superstition. Moi je suis le vrai Dieu. Fais-moi un sacrifice humain légitime. Ah, il y a Raymond DeVos, il a fait un sketch, il dit oh, Dieu m'a dit, prépare ta femme et sacrifie-la. Alors, je suis allé voir ma femme dans la cuisine, je l'ai mise sur la table, je l'ai attachée, j'ai pris un couteau, et là, l'ange m'a dit non, ne tue pas ta femme. C'est un sketch de Raymond DeVos. Sauf que là, c'est pas un sketch parce que c'est la fondation de une des fondations de la Bible. Hein. Dieu, en tant que Dieu, peut demander un sacrifice humain. Il le demande à Abraham. Abraham part avec Isaac. Isaac porte le bois. Ça vous dit quelque chose? Il porte le bois. Abraham a du feu pour brûler le sacrifice et un couteau. Et là, il y a Isaac qui dit, mais il est où? Elle est où la victime? Elle est où l'agneau? On verra. Il monte sur le mont, sur le futur mont du sacrifice du temple de Jérusalem. Et là, il pose le bois et tout ça. Et là, Isaac, il y a 15 ans ou 12 ans, il dit, monte sur le bois, mon cher ami. Alors là, il est là. Tout interdit, hein, quand même. Il va mourir. Hein. Et Abraham, la mort dans l'âme. Alors, saint Paul nous dit qu'il croyait que son fils ressusciterait, qu'il y a la vie après la mort. Il rend son fils à Dieu. Et là, et il obéit à Dieu. Et alors qu'il arme son bras, vous avez l'archange Gabriel, un ange, qui retient son bras et qui dit, arrête! Tu crains Dieu. Tu obéis à Dieu, c'est suffisant. Prends ce bouc. Il y a un bouc qui était à côté, là, qui les cornes dans des... Car Dieu déteste les sacrifices humains. Il pourrait le demander parce qu'il est le Tout-Puissant et qu'il a le droit de nous demander de rendre la vie comme il nous la donne. Mais il n'a jamais accepté le moindre sacrifice humain. Et là, bon, il prend le machin, Isaac, il est là, il dit, mais papa, il est drôlement pieux, hein. Oui, il est religieux, papa, hein. Il a peur de Dieu, là. Et moi, j'ai échappé belle, hein. Enfin, ils en souviendront pendant des générations et des générations et générations, pas de sacrifice humain. Ça fait peur, hein, c'est, roulette russe, ça, jink! Non. Et là, il revient. Abraham meurt, Sarah meurt, Isaac a Jacob, et il a les mêmes promesses qu'Abraham, et Jacob a 12 enfants. Et ces 12 enfants s'appellent Lévi, Simon, Issacar, Ruben, comment dire, Benjamin, Judas. Et il a 12 enfants. Et parmi ses enfants, il y a Joseph aussi. Ils sont en Terre Sainte, hein, ils ont acheté un petit lopin de terre, tout ça. Enfin, un petit lopin de terre, ils avaient 300 bergers quand même, hein. Et là, comment dire, à un moment donné, les frères de Joseph, qui étaient très très pieux, très bons, pleins de bonté, deviennent jaloux de lui. Et il a des songes. Et il dit, j'ai vu 11 étoiles, la lune et le soleil s'incliner devant moi, une 12e étoile. J'ai vu 11 gerbes s'incliner devant moi, alors que j'étais la 12e gerbe. Et là, Isaac, il dit, mais tu te prends, donc tu vas me supplanter, toi, Joseph, mon fils? Et les 11 frères, ils disent, quoi ce prétentieux? Et là, à un moment donné, ils sont à la chasse, ils le prennent, et disent, bon, on va le tuer. Alors, il y a Simon qui dit, non, non, on va peut-être pas le tuer, on va le vendre. Ou on va le mettre dans un trou, il va mourir de faim. Mais on va pas le tuer. On va pas le faire couler son sang. C'est sympa, hein, un frère comme ça. Hein, on en voudrait tous les jours. Et en fait, dans sa tête, il voulait partir avec ses autres frères et revenir retirer son frère du trou. Il s'en va, et les autres qui sont restés près du trou, il y a une bande de vendeurs d'esclaves qui passent. Ils ressortent Joseph et ils le donnent. Et quand Simon ou Ruben, je sais plus, revient, il est plus dans le trou. Non, non, on l'a vendu à des vendeurs d'esclaves qui sont partis en Égypte. Et là, il dit, oh là là. Alors ils prennent un de ses vêtements, ils tuent un animal, ils mettent du sang, et ils rapportent à Isaac, à Jacob, pardon. Et ils disent, voilà, il est mort, il a été attaqué par une bête sauvage, on n'a que son vêtement avec du sang. Voilà. Et Jacob, lui, qui était très pieux, Dieu lui apparaît, lui dit, il faut que tu sois fort. Il y a un ange qui lui apparaît, Jacob retient l'ange, et l'ange, à un moment donné, en a assez de jouer avec Jacob, il lui coupe le nerf sciatique, avec son corps d'emprunt, il lui touche la jambe. Et en fait, à l'intérieur de la jambe, il coupe le nerf, et donc il tombe par terre, et dit, maintenant tu t'appelleras Israël, fort face à Dieu, et je te bénis. Jacob a boité le reste de sa vie. Et là, Joseph part en Égypte, il est mis comme esclave dans une maison, la femme veut coucher avec lui, il refuse. Elle dit qu'il a voulu la violer, il va en prison. Là, il y a le serveur du vin du pharaon et le boulanger du pharaon qui sont là. Il interprète leurs songes, ce qui permet à l'un de partir et l'autre de rester en prison et de mourir, malheureusement. Et à un moment donné, Pharaon est là et dit, j'ai vu sept vaches grasses et sept vaches maigres. Et les vaches maigres mangeaient les vaches grasses. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il fait venir tous les sorciers égyptiens. Bah, wa, Osiris, machin, truc, machin, Horus, on comprend pas. Mais je vais tous vous faire tuer. Voilà, à l'époque, hein, c'était un peu cruel la vie. Hein. Et là, celui qui sort le vin, il dit, les chansons, il dit, il y a un juif, un hébreu, pardon. Parce que les Juifs, c'est Judas qui donnera ce nom au peuple hébreu, un de ses frères. Il y en a un, il interprète les songes, c'est étonnant. Il en a, il les interprète. Il le fait venir, il dit alors, vous aurez 7 années de prospérité et ensuite 7 années de famine. Alors il y a Pharaon, il prend son anneau, il le met au doigt de Joseph, il dit, Tu es le vice-pharaon d'Égypte. Alors il organise tout, il organise tout, il organise tout. Et au bout de 7 ans de prospérité, 7 ans de famine, et là, Jacob, Israël et ses fils arrivent en Égypte. Ils se retrouvent face à Joseph. Alors les frères, ils sont bleus. Ils se disent, on a voulu le tuer, il est là, et c'est le chef maintenant, en effet. Et le père se réjouit. Et les Juifs vont rester 430 ans en Égypte du Nord. Le peuple hébreu. 430 ans. Oui. Et au bout de 430 ans, les Égyptiens en ont marre parce que les Juifs ont plein plein d'enfants. Les femmes juives sont très très fécondes. Ils ont peur alors qu'ils sont dans le Nord et qu'ils élèvent des animaux. Donc les Égyptiens considéraient que c'était un métier subalterne. On leur fait faire des briques, on leur fait faire toutes sortes de choses à coups de trique et tout ça. Et à un moment donné, le pharaon décide de faire mourir tous les bébés mâles. Alors il y a une femme juive qui prend son bébé, circoncis, elle le met dans un petit panier d'osier, et elle le balance à côté de là où la fille de Pharaon prend sa douche, son bain dans le Nil. Et comme elle était une servante de la fille de Pharaon, oh, tu veux deux? Alors on prend le machin et dit, oh, un petit bébé! Un hébreu. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va pas le dire à mon père. Allez, occupe-t'en, et c'est très bien. Elle a sauvé des eaux, Moïse. Donc, il est élevé par sa mère hébraïque, mais à la cour de Pharaon. Donc, il a une connaissance parfaite des Écritures. Vous voyez, l'histoire sumérienne. Vous avez Pierre Jovanovic qui a fait un livre en disant que la Bible a été copiée sur les livres sumériens. C'est faux. C'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse. C'est la tradition adamique. Quand vous avez le déluge, Babel et tout ça qui se trouve dans des traditions religieuses, c'est parce que c'est la révélation adamique. C'est le bouche à oreille de l'humanité. Moïse met tout ça par écrit parce qu'il est grand lettré. Et à un moment donné, et j'en arrêterai là, parce que vous avez mérité, il est 17 h, voilà que Moïse voit un Égyptien frapper un Hébreu. Arrête! Non, oui, quoi? Tac! Et l'Égyptien meurt. Et l'Hébreu, il part. Ensuite, il voit deux Hébreux en train de se disputer. Et là, Moïse arrive et dit, mais arrêtez! Et là, un des Hébreux dit, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et il est chassé de la cour de Pharaon. Et il part chez Jéthro, je crois que c'est un de ses oncles. Et il va garder les troupeaux alors qu'il était, comment dire, à la cour de Pharaon. Et alors qu'il est sur le mont Sinaï, là, comme ça, il voit un buisson. Et il brûle, c'est un feu de buisson. Et il brûle, et il brûle, et il brûle, mais il se consume pas. Alors il voit le buisson, il est là, il est entouré de flammes, et il tombe pas en cendres, enfin les branches brûlent pas. Alors c'est quand même curieux. Donc il laisse ses bêtes, il s'approche, et là il y a une voix qui lui dit, retire ses chaussures, ce lieu est saint. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vas aller parler à ton peuple et le mener dans la terre d'Abraham, le mont Moria, à Salem, à Jérusalem, où il a manqué de sacrifier Isaac. Ah ben ça va être difficile, je suis là, je sais pas bien parler, mais tu prendras Aaron, ton frère. Et alors ils vont voir le pharaon. Donc déjà, il n'a pas bonne presse, hein. Mais bon, il arrive comme représentant du peuple hébreu, avec Aaron, et il dit, voilà, est-ce que tu peux nous permettre d'aller adorer jusqu'au mont Sinaï? Et là, il y a Aaron qui dit, mais tu me prends vraiment pour une bille? Vous allez continuer à travailler, et plus encore. Alors le peuple hébreu, il dit à Moïse, comme représentant, on a vu mieux, hein, ils ont intensifié les livraisons et tout ça, on n'en peut plus. Et là, vous avez 10 plaies des Juifs. Moïse revient, il pose son bâton par terre, et le bâton devient un serpent. Vous avez les sorciers égyptiens qui arrivent, ils posent leur bâton par terre, et les bâtons deviennent des serpents. La sorcellerie égyptienne n'est pas négligeable du tout, hein. Vous voyez? Et là, le serpent de Moïse avale les autres serpents. Et ça s'arrête là. Ensuite, vous avez l'eau transformée en sang, les grenouilles, les temps, une grêle chaude, un peu enflammée, les ténèbres, j'en oublie, les sauterelles. Et puis, vous avez, comment dire, Pharaon résiste, résiste, résiste. Alors qu'il y a des fléaux qui tombent sur son pays, alors les gens vous diront c'était des catastrophes naturelles de l'époque. Sauf que c'est passé en quelques semaines, et qu'à chaque fois que vous avez un bonhomme qui allait voir Pharaon, ça commence demain, hein, et qui revient voir Pharaon, ça s'arrête aujourd'hui. Ouais. Et là, la dernière plaie, il dit, puisque tu ne veux pas nous laisser sortir, tu verras la gloire de Dieu. Non. Il part, et là, Moïse dit au peuple, vous prenez un petit agneau, tout blanc, sans tache, d'un an, vous l'égorgez, vous mettez le sang sur vos portes, vous le faites cuire, vous le mangez intégralement, vous vous habillez pour partir, ils n'auront pas le temps de faire cuire le pain sera azyme, c'est-à-dire pas gonflé, vous êtes en costume de voyage et vous attendez. Vous demanderez aux Égyptiens l'or qu'ils vous ont volé, tout le travail qu'ils ne vous ont pas payé. Alors ils sont là, ils préparent tout. Et là, vous avez Dieu qui envoie l'ange exterminateur. Là, je ne veux pas trop vous faire peur, ça sera la fin des temps, quand les anges puniront l'humanité qui fera crime sur crime. Hein. Et là, l'ange, il passe dans toute l'Égypte. Et il tue tous les bébés mâles égyptiens. Des hommes et des animaux. Et c'est un miracle d'une telle violence que Pharaon, qui perd son fils aîné, hein, tous les bébés aînés, hein, les premiers-nés, il est effrayé, tout le monde arrive dans la cour, les soldats, tout ça, on a perdu nos fils aînés, et là ils comprennent bien que c'est parce qu'ils ont tué des centaines de milliers de petits bébés juifs, hébreux depuis des années, hein. Ils sont pas cons, hein. Partez! Foutez le camp! Et donc, le passage de l'ange exterminateur, Pâques, c'est passage, hein, c'est le passage de l'ange exterminateur, l'agneau de Dieu, le sang innocent sur les portes, et là, les Hébreux partent, et il y a une tornade qui apparaît devant eux, ils sont environ 2 millions, et ils suivent cette tornade. La nuit, c'est une tornade de feu. Le jour, c'est une tornade de nuages. Et ils suivent, ils suivent, ils suivent. Et cette tornade les mène dans une impasse devant un bras de mer. Vous voyez? Vous avez quelqu'un, un agnostic, qui entend dans une chapelle, oh, il a fait des merveilles, il a fait passer son peuple à pied sec à travers la mer Rouge. Mais n'importe quoi, c'était la mer des joncs, il y avait 50 cm d'eau, 20 cm d'eau. Ah bon, et ils se sont pas embourbés? Non, bon, non, 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 ils sont passés, ils sont passés. Ah bon. Et là, après, il repasse et il entend, il a fait des merveilles, il a fait des merveilles, il a noyé l'armée de Pharaon dans 50 cm d'eau. Parce que l'armée de Pharaon poursuivait, parce que Pharaon a fini par craquer et dit, tuez-les tous. L'armée de Pharaon a poursuivi, eux, ils sont arrivés, Moïse a étendu les bras. La mer s'est ouverte, le bras de mer s'est ouvert, le sol a été desséché, ils sont tous passés avec leurs carrioles, leurs animaux et tout ça. Et quand ils sont passés, l'armée de Pharaon s'est engouffrée en voyant ces deux murailles d'eau, et quand Moïse a descendu les bras, vloup, toute l'armée de Pharaon a été noyée. Ils sont arrivés. Et au lieu d'aller rentrer en terre, comment dire, ils sont allés au pied du mont Sinaï, Et au pied du mont Sinaï, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse et a dit au peuple, vous garderez la foi et la morale. Tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces. Tu respecteras le nom de Dieu. Tu ne travailleras pas le jour du Seigneur et tu prieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas l'innocent. Tu ne feras pas d'impureté volontaire. Tu n'auras pas de commerce sexuel en dehors du mariage. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu te marieras et tu n'auras pas de pensée en dehors du mariage. Et tu ne seras pas jaloux de l'argent et des biens d'autrui. Voilà. Et ils ont passé 40 ans dans le désert parce que les aînés n'ont pas voulu entrer en Terre Sainte. Ils avaient peur. Et Dieu leur a dit, ben, si vous avez peur, vous restez dans le désert. Et au bout de 40 ans, ils sont entrés en Terre Sainte. Alors nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous croyons que Dieu a créé l'homme et la femme, qu'il y a une histoire humaine, une histoire des peuples, et que le peuple hébreu a été bombardé de miracles pendant des siècles. Au point qu'actuellement, vous avez 25 millions de juifs qui y croient mordicus. Et là, si vous voulez, Isaac, c'était déjà le sauveur, Jésus. L'agneau sacrifié pendant la nuit pascale, c'était le sauveur, Jésus. Le peuple qui passe à travers la mer, c'est le baptême. Et la mort par noyade mystique, surnaturelle, et la résurrection, quand on sort de l'eau. Et là, le peuple hébreu va jusqu'au roi David et jusqu'à Jésus attendre, attendre, attendre le Sauveur. Et qui va, si vous voulez, j'en termine là parce que c'est bien évident que c'est trop, mais n'oubliez pas une chose bizarre, c'est que nous, enfin, sauf peut-être parmi vous, il y a des gens d'origine juive. Mais comment ça se fait qu'une mini-religion d'un mini-territoire est arrivée jusqu'à l'Amérique, jusqu'à l'Australie, jusqu'au Japon? Vous voyez, il faut vous poser la question de savoir d'où l'on vient. Est-ce que nous sommes vraiment le fruit du hasard ou si nous sommes des créatures intelligentes? C'est ça la vraie question. Et quand vous vous unissez homme et femme, c'est pour continuer cette présence humaine dans la bonté et dans la vérité. Alors je vous conseille de ne pas polluer, de faire attention et tout ça. Mais attention, hein, faites pas comme le prince je sais pas quoi, Andrew, je sais pas qui dit j'aurais pas pu des enfants parce que je veux sauver la planète. Et c'est... Bon, je suis climato-sceptique, je suis désolé, dans 5 ans j'irai en prison pour ça. Mais pour l'instant, je peux encore le dire et vous dire que la famille l'emporte sur tout. L'égoïsme humain, l'individualisme nous dessèche. Et là, actuellement, la religion du climat, c'est un prétexte pour une sorte d'autosatisfaction, de limiter, si vous voulez, la vie humaine, quoi. Il faut faire très attention à cette religion du climat. La vraie religion, c'est la famille, hein, et c'est l'amour entre un homme, un époux et une épouse, et les parents et les enfants. C'est ça la vraie vie humaine. C'est pas de faire attention si vous devez péter tel volume pour pas, comme les vaches, pour pas qu'il y ait un effet de serre. Le dioxyde de carbone, c'est 0,04% de l'atmosphère. Quand vous avez un volcan qui explose, vous avez toute la production de carbone de la humaine en un instant, d'un an. Enfin, excusez-moi de ce petit passage, mais c'est pour vous dire que jeudi prochain, si vous voulez revenir, 1h30 pas plus, eh bien, ça sera qui est Jésus? Comment ça se fait qu'il y a eu des miracles, des résurrections de morts? Comment ça se fait que la Vierge Marie est apparue à Lourdes, à Fatima, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez? Pourquoi vous avez des prêtres béninois? Pourquoi vous avez des prêtres haïtiens? Pourquoi vous avez des prêtres japonais? C'est qui Jésus? Vous voyez? Voilà. Pourquoi les Israéliens veulent la Terre Sainte? C'est quand même intéressant de le savoir. Et vous allez me dire, tout ça c'est des religions inventées par les hommes, les religions n'ont apporté que la guerre entre les juifs, les musulmans, les chrétiens. Eh bien nous verrons ce qui est possible de tirer pour votre... le questionnement aussi fondamental, c'est au fait, on vit sur Terre un certain nombre d'années, on tombe amoureux de quelqu'un, mais est-ce qu'il y a une vie aussi après la mort? Est-ce qu'on retrouvera à l'être aimé? Est-ce que vous vous aimez, vous, là, en ce moment, tous les deux? Est-ce que vous vous retrouverez après la mort? Après la vie terrestre? Il y a plein de religions qui font des statues, des machins, des trucs, du chamanisme, de l'animisme et tout. Alors nous, est-ce qu'on a raison de croire qu'il y a une vie après la mort, comme presque tous les peuples l'ont cru? Est-ce que vous croyez que si vous avez des enfants, vous les reverrez dans la vie après la mort, une vie qui est la récompense du choix du bien et de l'amour, et que ce n'est pas en vain qu'on choisit le bien et l'amour? Vous voyez? Sinon, il y a tellement d'injustices sur Terre que, franchement, s'il n'y a pas une récompense du bien et du regret du mal après la vie terrestre, la vie humaine est extrêmement austère et extrêmement dure. S'il n'y a pas de récompense de l'amour, s'il n'y a pas le bonheur à un moment donné comme récompense, mais la vie humaine est très dure. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous vous mariez pour être heureux et vous vous mariez aussi dans l'espérance qu'il y a un épanouissement de la vie terrestre à un moment donné où on est jugé sur notre conscience par le Créateur. Oui. Moi, pour terminer moins sérieusement, alors c'était super, là je termine très bien, et puis vous avez la Galerie de l'Évolution à Paris. En ce moment, il y a une exposition qui est temporaire. Ce sont toutes les bestioles qui sont à 3000 mètres de fond. Alors, Galerie de l'Évolution, vous comprendrez que je déteste ce titre. Mais incroyable, les photos qu'ils ont prises, vous avez des animaux, des crabes, des méduses, qui ont toutes les couleurs possibles et imaginables, qui sont d'une finesse, qui ont des pattes, des machins, des trucs, mais des trucs fous. À un endroit où il n'y a pas un pet de lumière, à 3000 mètres de fond, invertébrés, quand on les sort à 3000 mètres en haut, ils font ils explosent. Parce que ils sont faits pour être sous pression. Mais c'est une merveille de délicatesse, ces petits êtres. Allez sur Google ce soir et regardez, Galerie d'Évolution, les profondeurs. Et regardez ces photos et dites-vous, mais c'est par hasard et par milliards d'années qu'il y a des êtres aussi beaux, aussi colorés. Mais alors moi, qui suis-je si je ne suis pas une méduse des profondeurs? Qui suis-je? Un homme, une femme, des enfants de Dieu? Oui. Et qui est Dieu pour avoir une vie avec tant de bonheur et tant de joie, et parfois tant d'épreuves et tant de peines? Mais Dieu n'est pas un rigolo. Et quand il nous lance dans la vie, c'est pour qu'on soit heureux à terme, mais il nous fait passer plein d'épreuves, parce qu'il veut tirer le meilleur de nous-mêmes. Dieu n'est vraiment pas un rigolo, mais Dieu est amour. Et donc il nous fait sortir de notre cœur le meilleur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Père, du Fils, Saint-Esprit. Voilà. Alors, si vous osez revenir, c'est jeudi prochain à 20h.